Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de judaïsme et de Torah. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonjour Ravelli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. On va parler, on fait comme d'habitude, on va survoler la paracha de notre semaine, ce passage que nous lisons dans nos communautés. Et là, on arrive à Ekev. Et vous avez décidé d'intervenir ce soir sur quelque chose de très précis, étant évidemment lié à ce qui est dit dans le texte. Ceux qui limitent leur univers à leur midot. Les midot, c'est très dur à traduire, ça veut dire leur trait de caractère, leur penchant. On va voir quel mot vous allez choisir pour le traduire. Quel mot vous choisissez pour traduire midot, Rav Lemel ?
Les midot, ce sont les différents traits de caractère que l'on peut avoir.
Allez, traits de caractère que l'on peut avoir et qui limitent leur judaïsme à leur trait de caractère en oubliant les mitzvot. Et je vous attends avec beaucoup d'impatience, Ravelli Lemel, parce que moi je connais surtout les autres. Ceux qui limitent leur judaïsme aux mitzvot, et on verra pour plus tard pour les midot, donc pour les traits de caractère. Moi je dois faire, par exemple dans cette paracha, je dois faire le Berkat Amazon, bon je fais le Berkat Amazon. Comme ça j'en connais plein, c'est déjà pas mal d'ailleurs. Mais j'en connais. Mais par contre, les midot, ils laissent de côté. Eh bien, vous renversez le raisonnement, d'après ce que j'ai compris de la façon dont m'a expliqué la dracha que vous voulez faire ce soir. Vous dites, non, moi, je voudrais voir ceux qui s'intéressent que à leur trait de caractère et qui laissent de côté les midot. Et là, vraiment, je suis impatient de vous écouter.
Oui, en effet, on est d'ailleurs dans tout le livre de Dvarim de manière très intéressante. Dans un texte dans lequel on avertit le peuple d'Israël de tout ce qui risque de se passer s'il oublie la dimension divine de la terre d'Israël le jour où il s'y retrouve, s'il oublie les commandements d'Hachem, avec donc toutes les implications que cela peut avoir à tous les niveaux. Et donc évidemment, on nous parle ici d'être vigilant, comme alors il y a énormément de versets qui redisent de manière différente, mais sur le même principe, la même chose. Ishamer le chapen tishka, fais attention de ne pas oublier ton Dieu en ne gardant pas ses mitzvot, mishpatav, ses lois, vechukotav et ses statuts, acharan ruchim et tzavachayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Intéressant. Ishamer le chapen tishka, et Hashem elokecha. Fais attention de ne pas oublier le Créateur en ne gardant pas ses mitzvot, ses mishpatim et ses chukim, c'est-à-dire ces différentes lois que l'on peut, que l'on se doit d'accomplir au quotidien. Et ici, au fond, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire ? Le texte est en train de nous dire que eh bien, l'univers des mitzvot, l'univers de la pratique des commandements, est là pour nous permettre de rester en contact avec le divin. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si vous regardez le début de la paracha, le tout début, le premier verset, il a quelque chose de très curieux. Il nous dit « Vaya ekev tishmeu net amishpatim ha'ele » ça sera quand vous garderez ces lois-là, « Ushmaretem vasitem otam » que vous les garderez, que vous les ferez. Évidemment, c'est très curieux parce que quand vous les écouterez, vous les garderez, vous les ferez. Moi, j'aurais écrit le texte, j'aurais dit « Cela sera quand vous accomplirez les différentes mitzvot, les différents commandements. » Or, le texte là-bas nous dit « Non ». Vaya Ekev Tishmoun, il nous parle d'abord de cette notion de Shmiya, c'est-à-dire cette notion d'écouter, et puis après il nous parle de cette notion de Shmira, c'est-à-dire de garder, et puis après il nous parle de cette notion de Asiya, c'est-à-dire d'accomplissement. On a peut-être ici le point de départ de la réflexion que j'avais envie d'avoir avec vous. La notion de Shomea, écouter, eh bien c'est une forme de passivité, mais non point dans sa dimension péjorative, c'est-à-dire je suis totalement à l'écoute, je me mets totalement à l'écoute et je reçois pleinement la parole de celui qui est en face de moi, ici en l'occurrence de celui qui emplit le monde, c'est-à-dire le créateur de l'univers. Et puis après, shomer, c'est garder, c'est une notion qu'on a déjà évoquée ensemble sur cette antenne, la notion de shmira, de garder, nous renvoie au concept de l'importance et de la valeur d'une chose. Et après, l'univers de la asiya, l'univers donc de l'action. Alors, évidemment, moi, si vous me dites ça, je vais vous dire, attendez, je ne comprends pas. Dieu me dit mets les téphilines, Dieu me dit de respecter le Shabbat. Bon, ben ça, je ne suis pas complètement idiot. Monsieur le rabbin, ça va, j'ai entendu, quoi. Donc, je vais le faire. Oui, il n'y a pas de problème, je mets mes teffes, comme diraient les gens parfois de manière un peu légère. Je mets mes téphilines, je mets mon talit, je fais Shabbat, super. Et la Torah te dit, non, attention, il va falloir que tu sois pleinement à l'écoute, que tu sois chômère, que tu gardes et que tu fasses. Traduction, il va falloir que tu construises une autre relation par rapport à l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que tu te donnes les moyens de prendre la mesure de ce qu'elles veulent dire, de ce qu'elles représentent et de ce qu'elles doivent impliquer à l'intérieur de ta vie. Et on nous dit bien qu'il peut y avoir quelqu'un qui est naval birshut haTorah, c'est-à-dire qui est dégoûtant tout en étant dans l'univers de la pratique parce que tout simplement il est dans une pratique technique et ça s'arrête là. Et plus que cela, il peut avoir des attitudes extrêmement bas de gamme dans l'univers des relations humaines ou même dans sa manière d'accomplir les mitzvot. Et sur la base de ça, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même pour celui qui accomplit la mitzvah une nécessité absolue d'être chômer, c'est-à-dire de s'arrêter, de se dire, mais au fond, ce qu'on est en train de me dire, ça a une importance. Mais c'est quoi cette importance? C'est là pour me permettre de prendre conscience de quoi? C'est pour me faire aboutir à quoi? C'est un petit peu cette idée fondatrice qui est que l'acte de la mitzvah, c'est le vecteur d'un enseignement que je dois être capable de retraduire dans ma réalité quotidienne. Ça, c'est évidemment tout l'enjeu de celui qui est dans la shmirat à mitzvot, qui est dans le fait qu'il garde les mitzvot. Mais maintenant, il y a aussi l'individu qui va comprendre que ce qui est important, eh bien, c'est justement l'univers des midot, c'est-à-dire de faire attention à son écoute, à sa colère, à la relation à l'autre, au don et à tout ce qui est autour de cela, mais, et c'est là où est le drame, va s'en suffire. C'est-à-dire, décidera de limiter sa relation à la spiritualité à ce qui a trait au monde du raffinement dans la relation avec l'autre. Alors vous allez me dire, mais c'est génial, et surtout parfois on va dire, bah, surtout qu'il y en a qui font les mitzvot, mais au niveau des comportements, c'est parfois un peu limite, voire même extrêmement limite. Ce n'est pas impossible, c'est vrai. Mais quel est le problème? C'est que derrière cela, en vérité, c'est l'enjeu de savoir suis-je soumis à quelque chose qui me dépasse ou pas. Celui qui, au fond, a décidé que les midot sont fondamentales, évidemment que va se passer des choses positives dans son existence. Seulement, pourquoi n'accomplit-il pas les mitzvot? Elles ont été exprimées par Dieu. Pourquoi tu ne veux pas, au fond, te mettre à l'écoute de la parole divine dans tous les domaines? Parce que tout simplement, on a décidé de mettre Dieu dans certains domaines aux oubliettes de l'histoire. Donc en deux mots, je suis ma propre référence. Or, si je suis ma propre référence, dans l'univers des midot, dans l'univers des traits de caractère, je serai aussi ma propre référence et je déciderai en effet quels sont les points sur lesquels il faut travailler, quels sont les points qui sont fondamentaux, quelles sont les bonnes midot, les bons traits de caractère qu'il est important d'installer dans sa vie et quels sont ceux que l'on doit mettre de côté. Et je vous donne un exemple très simple. La notion, par exemple, de vitour, la notion de savoir céder, C-E-D-E-R, savoir céder à l'autre. Eh bien, il est fort possible que je décide que quelqu'un qui cède sans arrêt, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il se fait avoir, parce qu'au contraire, il doit s'affirmer, et que ce n'est peut-être pas un trait de caractère positif de savoir céder. Alors que pour la Torah, la notion du vitour, de savoir céder, elle est fondamentale. De nos grands maîtres, le Rav Shteinman disait qu'on ne perd jamais rien lorsque l'on va céder. Ça peut être un exemple. Et on pourrait les multiplier dans d'autres domaines, parce que l'action de la mitzvah est à minima quand même l'expression de la soumission que l'on a vis-à-vis de la parole divine, donc d'une écoute de ce qu'il va nous définir, même dans l'univers des midot. Et vous avez donc des personnes qui, en effet, vont faire preuve de bonnes midot, c'est-à-dire de traits de caractère positifs, mais parfois en allant beaucoup trop loin. D'accord ? On va donner un exemple très simple. Cette notion de ne pas être makpid, c'est-à-dire de ne pas avoir de rancœur, de ne pas en vouloir à quiconque. Eh bien, si on la pousse à l'extrême, eh bien, Je n'en veux à personne, je n'en veux pas à cet individu qui est en train de tout faire pour éloigner des personnes de notre peuple. Je n'en veux pas à cette personne qui va, par exemple, convaincre que bien qu'au fond, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se sentir juif de cœur et le reste est un détail et que parfois, si juste ton père est juif, eh bien, c'est amplement suffisant, etc., etc. Ben non, surtout pas, au contraire, la tolérance. Ben, c'est parfois l'ouverture à un monde dans lequel, écoutez, il faut développer l'amour. Donc, du moment que l'amour est là, eh bien, l'amour est là et l'amour peut être entre tout le monde. Et puis, je te tolère dans ton désir de devenir différent, de changer. Enfin, voilà toutes ces choses que l'on voit autour de nous et desquelles on ne peut même plus parler véritablement de par tout simplement le système qui vous interdit aujourd'hui d'exprimer un point de vue sur un sujet sensible, et vous savez parfaitement de quoi je parle, et c'est assez bouleversant, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique là-dedans. Voilà, alors ça c'est l'univers des midotes, mais défini par l'individu, qui lui-même, en effet, va expliquer qu'être tolérant c'est ça, donner c'est ça, céder c'est bien, mais pas toujours, ça dépend quand, et c'est lui-même qui va être sa propre référence. Et à ce moment-là, elle est où la limite ? Et surtout, vous constaterez que beaucoup de personnes qui développent cet univers de midot dans la relation à l'autre sont souvent dans une sélection de celles et de ceux vers qui ces bonnes midot devront s'exprimer. Il y a quelque chose quand même parfois d'assez hallucinant. D'ailleurs, la Torah, lorsqu'elle nous parle des animaux qui sont impropres à la consommation, elle nous cite dans les volatiles un animal qui s'appelle chassida. Et chassida, c'est quoi ? C'est la cigogne. Et cigogne, pourquoi c'est impur ? Au contraire, c'est un très joli nom. Chassida vient de la racine chesed, qui veut dire donner, apporter à l'autre. Donc c'est génial. Selon nos maîtres nous disent, oui, bien sûr, la cigogne s'occupe parfaitement bien, mais de ceux qui font partie de son club, de ceux qui font partie de son propre univers. C'est-à-dire, le monde des bonnes midotes est là, mais réservé pour celles et ceux qui ne m'interpellent pas, qui ne me bouleversent pas, qui ont fait des choix de vie qui correspondent plus ou moins à ce que j'ai décidé comme étant des choix de vie positifs, etc. Et vous allez voir des choses qui sont assez incroyables. Aujourd'hui, en Israël, par exemple, eh bien, même dans le monde du pouvoir, certaines personnes vont dire, eh bien, nous sommes de ceux qui faisons très attention à nourrir les chats affamés. C'est génial, c'est très bien. Mais par contre, le regard que l'on va porter sur ces familles qui décident de donner la vie à de nombreux enfants, eh bien, il va être légèrement différent. Au contraire, on va leur dire, mais attendez, c'est quoi cette histoire ? Non, on veut bien nourrir les chats parce que les chats, c'est pas un problème. Mais qui êtes-vous qui êtes en train de donner la vie à tellement d'enfants ? Ça ne se fait pas. Et c'est intéressant de voir ça parce que c'est le monde des midot dans lequel les mitzvot ne sont pas là. Alors bien sûr, comme je l'ai dit au début, le monde des mitzvot, le monde des commandements, de la pratique religieuse dans lequel les midot ne sont pas là, c'est un drame. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un acte automatique, c'est un acte dans lequel on ne cherche pas à voir que l'acte de la mitzvah, c'est le vecteur d'une transformation de l'être. C'est l'oubli de l'enseignement, entre autres, du Gaon Mivilna qui nous dit que la finalité de l'être sur Terre, c'est de se transformer au niveau de ses traits de caractère. Veimla, et si ce n'est pas cela, il dit cette phrase terrible, l'amalochaïm, à quoi cela sert-il qu'il vive ? À quoi sert la vie si ce n'est pas là pour se transformer ? Mais en même temps, le Gaon Mivilna, c'est celui qui nous enseigne l'importance fondamentale des mitzvot. Et faisons toujours très attention, en les jugeant néanmoins positivement, à toutes ces personnes qui ont des midot très sympathiques, mais qui récusent l'importance de la mitzvah. Alors, il y a ceux qui récusent l'importance de la mitzvah parce qu'on ne leur a jamais rien appris, ou ils pensent connaître, mais en vérité, ils ne savent pas grand-chose. Ceux-là, au fond, la seule chose qui leur manque, c'est l'accès au savoir. Mais il y a ceux qui n'ont pas du tout, font de la notion des midot une forme de drapeau dans lequel ils décident de définir ce qu'est le judaïsme, et puis disent à Dieu, eh bien voilà, c'est nous qui définissons, le judaïsme c'est ça, la Torah c'est ça, et puis le reste au fond c'est pas si important, donc on devient à ce moment-là sa propre référence, avec toutes les incidences négatives que ça peut avoir à terme. À nous de savoir, lorsqu'on est un tant soit peu dans l'univers des mitzvot, des commandements, de se rappeler de l'importance fondamentale des midot, et je dis bien fondamentale, et peut-être à ceux qui pensent que le judaïsme se résume à un monde de midot, leur dire faites attention parce que dans ce cas-là, vous risquez de devenir votre propre référence Et c'est peut-être pas nécessairement la meilleure manière de construire une société.
Ravi dit le mail, il y a une phrase que j'ai toujours aimée dans la Torah, c'est peut-être vous qui me l'avez appris d'ailleurs. Yesh kone olamo bedaka achat. Il y a quelqu'un qui fait
Becha'achat.
Becha'achat. Ah, faut quand même une heure. C'est tellement injuste a priori. On peut avoir une part dans le monde futur avec un acte, un seul acte qu'on est capable de faire. Pourquoi ? Parce que cet acte, c'était celui-là. C'était le bon. Et nous, on dit, mais attends, mais nous, on met les tefillines tous les jours. Ouais. C'est parce que c'est Dieu qui décide. Cet acte-là que tu as fait, cet enfant que tu as sauvé, ce sacrifice que tu as fait pour ça, c'était celui-là que j'attendais. Ravi Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous. Et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Et on part tout de suite pour Jérusalem, où l'on retrouve Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom de Jérusalem, c'est toujours plein de soleil, c'est toujours merveilleux. Rav Mordechai Bitton, on continue à réfléchir sur notre paracha de la semaine. Et donc, Ekev, il faut savoir que ça veut dire un talon. Et vous avez envie de commencer votre réflexion avec un sourire. On nous demande de réfléchir à Ekev, mais comment on peut réfléchir avec un talon ?
Ben effectivement, on réfléchit avec sa tête, on réfléchit avec son cœur. Lev Shomea, c'est une expression qui apparaît dans Melachim, dans les rois. Un cœur qui écoute. Si on considère que le cœur est un centre énergétique, effectivement, le cœur qui écoute. Ou alors, effectivement, les oreilles, le cerveau, mais avec le talon. Alors, tous les Mefarshim se sont interrogés sur la présence de ce beau talon. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que ça existe, cette expression, même en hébreu, Ekev Kar, à la suite de ce qui s'est passé, etc. Donc, on pourrait traduire le pasouk, le verset, très simplement, en disant, Vaya Ekev Tishmeun, à la suite du fait que vous écouterez, donc vous serez amené à nouveau à écouter d'autres mitzvot et à les comprendre. Du point de vue de la logique, ça se comprend, mais malgré tout, la présence de la référence au talon a interrogé tous les Mefarshim. Évidemment, tout le monde explique qu'il s'agit ici de la Hanava. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire que finalement, à partir du moment où quelqu'un est capable de se baisser métaphoriquement jusqu'à son talon, c'est-à-dire de finalement s'annuler, faire preuve de modestie, alors effectivement, il sera capable de recevoir la Torah. Il faut dire aussi autre chose, c'est que le mot « ekev » à l'envers, c'est le mot « keva », keva qui veut dire « fixe », et ça fait référence à ce que nos sages nous disent quand ils disent « asé toratra keva », fais de la Torah le pivot de ta journée, c'est-à-dire ce qui est fixe dans ta journée, de manière à ce que finalement tout tourne autour de ton étude de la Torah, ce qui est une manière aussi également de s'annuler devant l'étude de la Torah et d'en faire en quelque sorte l'épicentre de son existence. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous citer ici quelques anecdotes, et c'est très intéressant parce que ces anecdotes, elles montrent que finalement, on parle des dirigeants contemporains, hein, tous les grands dirigeants contemporains du peuple juif ont tous été des gens qui ont travaillé cette Mida de la Hanava. Et pour nous, nous les gens du peuple, on peut commencer à la travailler tout simplement en lisant la lettre de Nachmanide, Yiret Arban, qui est une lettre qui, si on la lit quotidiennement, nous invite à réfléchir réellement sur la verticalité des rapports. C'est-à-dire que Ramban dit par exemple dans sa lettre, si tu as affaire à quelqu'un qui est plus chacham ou plus riche que toi, eh bien tu dois le respecter. Si tu as affaire à quelqu'un qui est moins chacham ou moins riche que toi, tu dois penser qu'il est, s'il faut de manière inintentionnelle, alors que toi, tu fautes de manière intentionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que Nachmanide nous dit ici, finalement, on doit apprendre, dans le rapport à l'autre, à organiser une certaine verticalité. C'est-à-dire à toujours finalement considérer qu'on a en face de nous quelqu'un qui est mieux que nous et qu'on a quelque chose à apprendre de lui. Et ça, c'est un trait de caractère qui est fondamental. D'abord, sans aller jusque, si vous voulez, à tenir un grand discours sur la nava ou la modestie, il s'agit aussi finalement de considérer que dans la vie, on ne rencontre jamais des idiots. Vous savez, il y a toutes sortes de gens dans la vie qui ne rencontrent que des idiots. Ils rencontrent que des idiots, et donc ils sont entourés d'idiots, ils sont entourés de gens qui ne comprennent pas, et en général, ce sont des gens qui ont raison, mais alors assez étonnamment, passé la barrière des 60 ans, ils sont seuls. Ils ont déjà divorcé, je ne sais pas, un nombre incalculable de fois. C'est des gens qui ne s'entendent avec personne, ce sont des gens qui ont raison. Et donc, ils ne rencontrent que des abrutis dans la vie. Alors, il y a, dans cette réflexion sur la Nava, une invitation à regarder l'autre comme étant finalement une chance. J'ai quelque chose à apprendre de l'autre. Alors, j'ai ici sous les yeux quelques anecdotes. Par exemple, Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était très connu, il est décédé il y a maintenant pas loin d'une trentaine d'années, mais un très grand décisionnaire dans les années 50, 60, 70, 80. Il vivait en Eretz Israël. Et il avait l'habitude de dire à ses proches, alors que c'était un géant, il était très respecté, « Vous ne devez pas me faire mal. Alors pourquoi vous écrivez sur moi des choses aussi grandioses et aussi grandiloquentes que ce que vous écrivez à Rav, à Gaon et tout, etc. D'accord ?» Alors un jour, il s'est un petit peu fâché, puis il a dit « Moi, je vais vous montrer ce que c'est le Kavod. » J'ai envoyé une lettre à Rav Moshe Feinstein, qui était un grand décisionnaire, et il a été d'accord avec moi. Il dit « Ça, c'est du Kavod. » Plus prosaïquement, le Majguiach de Ponevich, Rav Lovinstein, une fois, il tourne dans le Beit HaMidrash, mardi, 3 jours après Shabbat, il va voir quelques bachourim, quelques élèves, et il leur dit « Est-ce que vous vous souvenez qui est monté en 6e position ?» À la 6e Aliyah, vous savez que notamment chez les Ashkenazes et notamment chez les Chassidim aussi, il y a un grand kavod, c'est un grand kavod de recevoir la 6e Aliyah, la 6e montée. Alors les élèves disent non, je ne me souviens pas du tout. Alors il va chez un autre, il dit qui est monté en 6e position Shabbat dernier ? Il réfléchit, il dit je ne sais pas. Il en fait comme ça 10 et à la Sikhat Moussar, qu'il a fait ce jour même, il leur dit vous vous rendez compte que celui qui est monté 6e, il est monté avec le torse bombé, il était tout content et aujourd'hui plus personne ne te souvient qui était cet homme qui est monté donc en 6e position. On raconte également Rav Shmulevitz. Rav Shmulevitz était l'auteur du Sichot Moussar, qui est un livre très connu, très, très étudié, très répandu, et il était le Rosh Yeshiva de Mir. Alors un jour, en plein milieu d'une Sicha, il s'arrête comme ça, et puis il se met à parler, il dit « Vous savez, je suis très célèbre dans le monde. Tout le monde sait que je suis un très très grand Talmid Chacham, que j'ai vraiment des capacités mais de géant. Et beaucoup de grands du peuple juif sont mes amis. » Alors les élèves étaient là, ils ont commencé à se regarder, ils disaient hey, « il a dû disjoncter, quelque chose ne va pas, le Rosh Yeshiva va mal, etc. » Puis il les a regardés, il a dit « Oui. » Il dit « Sachez que chaque bonhomme pense comme ça à son sujet. Chacun d'entre nous, c'est ce qu'il pense à son sujet. Et chacun vit avec un kavod médoumé. Chacun vit avec un respect superficiel, avec un respect, avec des honneurs qui sont des honneurs frelatés, quoi, mensongers, voilà, c'est ça. À Kol Hevel, il a continué, il a dit à Kol Hevel. D'accord, il a voulu leur montrer qu'effectivement, chacun d'entre nous, ça. Alors une fois, j'ai eu également Rav Azran, qui était un député chasse et qui était Rav de Rishon LeZion. Il était venu à Paris dans le 17e. Et alors, quelqu'un lui avait dit, qu'est-ce que ça vous fait quand vous rentrez dans un endroit et que les gens ne se lèvent pas devant vous? Il a dit, c'est comme si on me rentrait un couteau dans le ventre. Je souffre. Je souffre du kavod. Il dit, je souffre. Voilà. Il y a un dernier exemple également, avec un Rosh Yeshiva. Je ne vois pas le nom ici. Alors lui, il avait l'habitude, quand il rentrait dans un endroit, de vite courir. Il rentrait quand les gens étaient debout et vite, il courait s'installer donc au Mizrach, ou à l'endroit des Rabbanim. Une fois, quelqu'un m'a dit « Pourquoi vous courez ?» Il a dit « J'ai le choix. » Il a dit « Je peux soit attendre que les gens soient assis et rentrer, ils vont tous se lever devant moi, soit faire ce que je fais moi, courir, et vite m'installer quand les gens sont debout. » Alors il dit « Mais quelle est la différence ?» Il dit « La différence, elle est que si jamais j'attends que les gens soient assis, je vais avoir un kavod. Mais quand je fais ce que je fais moi, c'est-à-dire que je cours pour aller vite m'installer avant que les gens s'asseyent, j'ai l'air un peu bizarre, et donc j'ai un kavod, mais allié des bisayons. C'est-à-dire j'ai mon kavod, mais en même temps j'ai honte. Je prends une petite tartine de honte, et c'est mieux comme ça. » Et vous voyez, c'est très intéressant, parce que finalement, tous les grands du peuple juif, et ça paraît quand même assez étonnant, tous les grands du peuple juif sont des gens qui ont, de manière tout à fait consciente et de manière tout à fait militante et active, travaillé cette mida de la Hanava. Alors si eux l'ont fait, évidemment, chacun d'entre nous aura à cœur de lire par exemple Igaret Aramban, la lettre du Ramban, et puis de se familiariser un petit peu avec cette pratique et apprendre un petit peu finalement à au moins introduire cette verticalité dans les rapports. Considérer qu'on rencontre toujours des gens intéressants, des gens qui sont toujours mieux que nous, qui ont toujours tellement de belles choses à nous apprendre. Ne jamais considérer qu'on rencontre des abrutis. Vous voyez, jamais. On rencontre que des gens bien. Moi, j'aime le monde. Je trouve qu'on rencontre que des gens bien. Voilà, je voulais partager cette réflexion avec vous. Et nous souhaiter à toutes Shabbat Shalom et d'être heureux de nous rencontrer entre gens bien.
Et de ce très beau moment qu'on a tous les vendredis après-midi, ce moment convivial à la radio, et ouais. Qui est vraiment formidable, où on apprend, et où on partage des choses. Et la radio a ce plaisir, c'est que c'est comme c'est une voix, on n'est pas dans le... On est un peu protégé de l'image. Donc on prend beaucoup de plaisir à parler aux auditeurs et à savoir qu'on dialogue avec eux. Vous savez, Rav Mordechai Biton, Rav Steinman a dit devant Yosef Hardy, et c'est là que je le tiens, il a dit, mais c'est interdit de donner quelque chose de tamé à manger à quelqu'un. Totalement interdit. Mmh. Alors pourquoi on a permis de donner des honneurs? C'est Rav Steinman qui a dit ça.
C'est vrai.
Comment on peut donner quelque chose de tamé à quelqu'un? C'est impossible. Rav Mordechai Biton, je vous souhaite un très beau Shabbat, plein de lumière, plein de bonheur.
Amen, autant pour vous,
chaleur,
autant pour nos auditeurs.
Merci beaucoup, on essaiera de le réussir au maximum. Merci à vous, Rav Mordechai Biton, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
À Jérusalem. Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chah.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. J'espère que les auditeurs ont été nombreux à faire leur devoir la semaine passée. Car c'était tout béaf et vous leur aviez donné des choses à faire. Mais ils peuvent se rattraper. Puisque c'est des trucs qui sont du domaine de quand on aime quelqu'un, on peut lui dire on peut se rattraper la semaine d'après. Maria Chadré. Alors justement, l'homme ne vit pas que de pain. C'est l'un des sujets que vous avez choisi dans notre paracha de cette semaine. Et alors, si l'homme ne vit pas que de pain, de quoi? D'amour, d'attachement, nourriture de l'âme. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin, Maria Chah? Dites-nous nos besoins.
Tout à fait. Alors, on est dans cette belle période post-Tisha B'Av, et je dis bien post-Tisha B'Av, ce n'était pas Katou B'Av, vous avez raison de dire on peut continuer. Ce n'est pas seulement qu'on peut, c'est qu'on doit. On est dans une période qui s'appelle Shiv'a de Nechamata, c'est-à-dire les 7 semaines de Nechama. La Haftara de la semaine parle de Nechama jusqu'à Elul, jusqu'à Rosh Hashanah. On est dans cette période de grande proximité, où on va créer du proche, de l'amour. Et on constate à la lecture de cette très très belle paracha de Ekev, que c'est un mot-clé qui revient sans arrêt sous toutes ses formes dans la paracha, le mot Ahava. Il va revenir et revenir, et pas seulement le mot Ahava, le mot Dvekim, Davka, Dvek, l'attachement. Amour et attachement. Et alors, c'est ça. Vous l'avez dit très justement en titre. Il y a un joli verset bien connu dans cette paracha qui dit « Rappelle-toi », donc c'est Moïse qui s'adresse au peuple et qui dit « Mais rappelle-toi de la manne, tu as été nourri de manne et sache pour toutes les générations, même nous aujourd'hui, où nous ne vivons pas de manne, n'oublions pas qu'on n'a pas besoin uniquement de pain pour vivre. » Et ça, c'est fondamental et c'est presque le titre, je dirais, de cette paracha. Nous n'avons pas besoin que de pain, c'est-à-dire d'une vie matérielle. Alors, on va œuvrer, bien sûr, pour avoir peut-être une aisance matérielle, pour avoir ce dont nous avons besoin, pour partir en vacances. C'est la période des vacances maintenant. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et c'est même loin d'être l'essentiel. C'est important. C'est important parce que le corps doit vivre. Mais l'essentiel, le fondamental, c'est la nourriture de l'âme. Et la nourriture de l'âme, eh bien, c'est toutes les thématiques développées dans cette paracha qui sont l'amour et l'attachement. Alors, l'attachement, la semaine dernière, on l'a déjà évoqué dans Vaitranan, dans ce très beau passouk, Ve'atem hadvekim ba'ashem, vous qui êtes attachés à Dieu. Et cette semaine, c'est un thème qui est repris, chapitre 11, verset 22, Le'ahava et Hashem Elokecha, pour aimer Hashem ton Dieu, La'lechet b'chol drachav, marcher dans ses voies, ou le'dav kabo, et pour t'attacher à lui. Alors, c'est assez étrange ce terme d'attachement, parce que je ne crois pas que spontanément, si on devait donner un adjectif ou parler de notre relation à Dieu, à chacun sa relation, hein, si c'est de l'ordre de l'intime, bien sûr, mais est-ce qu'on utiliserait le terme de « je suis attaché » peut-être pas spontanément. Mais pourtant, c'est le terme qu'utilise la Torah. Et si je cherche un petit peu ce radical « dalet bet kouf davak devek », la colle, l'attachement, je le cherche dans la Torah pour voir où il apparaît la première fois. Et souvenons-nous de ce grand principe, là où il apparaît la première fois, c'est le sens fondamental. Eh bien, il apparaît la première fois à la création du premier couple, au tout début de Bereshit, deuxième chapitre, quand Dieu crée le couple, eh bien, il crée en même temps l'objectif de vie de ce couple qui est un objectif de Vedavak Beishto. Et il s'attachera à son épouse, elle s'attachera à son époux. Donc, il semblerait que ce lien d'attachement à Dieu est du même ordre que le lien d'attachement dans le couple. Et je vais même aller plus loin. Je pense que travailler ce muscle, hein, je l'appelle communément le muscle de l'attachement, parce que c'est un muscle qui se travaille, hein, ce n'est jamais un acquis l'attachement, bien entendu. Eh bien, quand on travaille l'attachement à Dieu, c'est les mêmes mécanismes que les mécanismes de l'attachement dans le couple. Alors, il faut savoir que l'attachement a été beaucoup, beaucoup développé par un grand psychiatre britannique post-guerre, enfin, qui a travaillé pour l'OMS tout de suite après la Shoah. Et il a des travaux qu'il a fait pour l'OMS est sorti la fameuse théorie de l'attachement, hein, que j'invite nos auditeurs à lire, à se documenter dessus, c'est passionnant. Il est le premier à avoir dit qu'un enfant n'a pas besoin juste d'une sécurité, on va dire physique, donc de pain, mais qu'il a besoin d'une sécurité affective et émotionnelle. Et donc, il a besoin d'avoir une figure d'attachement sécurisante. Et c'est à lui qu'on doit tous les développements sur l'attachement avec nos enfants. Et ensuite, il y a eu une deuxième vague de théorie de l'attachement, la théorie de l'attachement dans le couple, qui n'était pas très à la mode, hein, parce qu'on avait plutôt tendance à dire que aller dans le sens de l'indépendance des conjoints. Et l'attachement vient et dit, il y a eu des travaux israéliens, mais majeurs, qui ont été faits sur l'attachement dans le couple, où ils ont également démontré, avec de nombreuses études, qu'un couple qui a un niveau d'attachement important ressent moins l'inquiétude quand il y a, par exemple, des missiles, des attaques, notamment en Israël, ils ont pu développer toute cette étude, mais aussi ils auront beaucoup moins, ils sont moins sujets aux attaques cardiovasculaires parce qu'ils sont attachés, parce qu'ils se savent en sécurité dans leur attachement. Donc, c'est fabuleux. Et moins un ressenti de la douleur physique, moins important. Donc, il y a vraiment de nombreuses études qui montrent à quel point, finalement, cette capacité à créer de l'attachement, finalement, donne une forme de bien-être fondamental, également au niveau physique et physiologique. Alors, la Torah développe cette notion d'attachement. Et dans un fameux verset également très connu, alors vous savez, on a tout le verset, tout le deuxième chapitre du schéma dans la parasha de cette semaine, Vehaya im Shamoa, donc avec la mitzvah des tefillin et de la mezouza, qui sont des mitzvot, je dirais, de l'attachement, puisque voilà, les tefillin nous lient, c'est ce lien à Dieu, la mezouza, notre maison est une maison qui est attachée aux valeurs de la Torah. Et juste après, il y a cette phrase, ce verset magnifique qui dit « Et maintenant, Israël, donc Moshe s'adresse à Israël, maintenant Israël, qu'est-ce qu'Hachem te demande ?»« Ma Hachem Elokecha Shoel Mimcha » Si tu veux, allez, sur un pied, que je te résume ce qu'Hachem te demande. Et la réponse vient juste après, le craindre, l'aimer, s'attacher à lui, etc. Mais là, Rashi, qui reprend une Gemara dans Menachot, un midrash aussi qui dit ça, cette phrase-là, Ma Hachem Elokecha Shoel, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Il y a un petit jeu de mots de nos sages là-dessus. Ils disent, ne lis pas ma, quoi, mais mea, sans, le chiffre 100. Sans quoi? Eh bien, 100 bénédictions par jour. C'est-à-dire que cet attachement va s'exprimer sous la forme de 100 fois un investissement ou bien une sensibilité. Une sensibilité à ce qui m'arrive. C'est quoi ces fameuses 100 bénédictions? Eh bien, par exemple, quand on mange, quand on boit, quand on va aux toilettes, on a aussi dans la parasha de cette semaine, « Ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta » Tu mangeras, tu seras rassasié, tu feras une bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des acquis pour nous. Être rassasié, c'est un sentiment qu'on a au moins 3 fois par jour, si ce n'est plus. Et donc, tout ça, Dieu vient et dit « Reste sensible ». Reste sensible à ce que c'est que ce sentiment d'être rassasié. Le sentiment de voir la mer, on est en montagne, on voit des belles montagnes, il y a une bénédiction. On voit la mer, une bénédiction. Le tonnerre, les éclairs, je m'habille le matin, modéani. Enfin, tous les éléments qui sont presque des banalités. Des banalités quand on est porteur de notre corps et notre corps avec toutes ces sensations. Il y a une banalité. Et la Torah nous enjoint de sortir de la banalité et de faire des brachot. Eh bien, je voudrais dire, comme le dit le Baal HaTanya dans son texte merveilleux du Tanya, il dit que pour s'attacher, pour créer de la dvekout avec Hachem, il faut s'impliquer, s'investir avec une kavana, avec une intention. Eh bien, je voudrais faire un parallèle presque évident dans l'attachement avec nos enfants, l'attachement dans le couple. 100 brachot par jour pour s'attacher à Dieu. Eh bien, j'ai envie de demander à nos chers auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'on fait plusieurs fois par jour pour manifester notre attachement? Nous sommes en pleine période de vacances. Nos auditeurs nous écoutent peut-être de leur lieu de vacances, peut-être de leur voiture, en route vers un week-end. Que faisons-nous pendant cette période où, en réalité, on est plus libre, on est censé être moins pris par ce que nous impose notre quotidien? Eh bien, que faisons-nous pour mettre à profit les vacances, pour faire peut-être ce que l'autre veut et que nous ne voulons pas forcément? Vous savez, dans les vacances, il y a aussi des conflits quand on doit gérer toute la fratrie avec des âges différents. Il y en a qui veulent telles activités, d'autres qui veulent d'autres activités. Peut-être dans le couple, entre l'époux et l'épouse, on n'est pas attiré par les mêmes visites ou par les mêmes loisirs. Que faisons-nous? Que sommes-nous capables de faire pour ne pas sortir d'une banalité du quotidien, pour ne pas rester dans une forme d'acquis dans le couple, mais pour faire quelque chose? Pourquoi? Ben parce que l'autre, peut-être, c'est son désir, parce que l'autre me le demande, parce que l'autre exprime une volonté. Et c'est finalement ça, les 100 brachot de la journée. 100 brachot, c'est 100 occasions. Ça semble beaucoup, hein, mais en vérité, voilà, avec nos prières quotidiennes, c'est 100 occasions de dire « waouh ». Là, j'ai ressenti que je suis rassasiée. Là, j'ai ressenti que je suis émerveillée. Là, j'ai ressenti rien du tout, mais juste que je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Donc là, je ne ressens rien du tout, mais je le fais parce que mon conjoint ou ma conjointe me l'a demandé. C'est autant d'occasions de manifester son envie, de multiplier l'attachement, de renforcer l'attachement, de renforcer l'amour, parce qu'en effet, on n'a pas seulement besoin de pain, on n'a pas seulement besoin de vie matérielle, on a surtout, surtout, surtout besoin de vie sentimentale, émotionnelle et d'attachement. Et je crois que cette période des vacances scolaires, c'est la meilleure période pour pouvoir manifester notre attachement à tous ceux qui sont autour de nous.
Mariacha, je crois que vous n'avez pas donné le nom du psychologue. Je vous écoutais avec attention, vous avez dit, bah, c'est un psychologue post-guerre, donc très contemporain. De qui s'agit-il?
Alors, pardon, c'est une erreur de ma part, c'est le docteur Bowlby, extrêmement connu. Bowlby, hein, vous le Wikipédiez en deux minutes.
Ouais.
Il est à l'origine de la théorie de l'attachement, mais ensuite, la deuxième théorie de l'attachement concernant le couple, c'est une grande thérapeute, psychothérapeute qui s'appelle Sue Johnson, qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle « Serre-moi fort ».
Ah.
Je vous recommande la lecture.
Très Serre-moi beau programme.
Fort. Voilà, et qui explique justement ce besoin de nourriture de l'âme, qu'on retrouve évidemment dans la paracha de cette semaine.
Magnifique, et donc on a bien compris la leçon. Et moi, en plus, ça, je vous écoutais en pensant à nos enfants, en fait, et à toute cette année de Zoom, de copains qu'on n'a pas vus, de cours qu'on n'a pas fait avec ce mot atroce. Je ne sais pas pourquoi on l'a inventé, ce mot-là, qui s'appelle présentiel. On ne peut pas dire en présence. Tu viens, t'es en présence. Qui invente des mots comme ça? Aujourd'hui, on invente un mot tous les trois mois. Mais enfin, c'est pas le plus important. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Et je me disais, mon Dieu, tous ces gens qui nous écoutent ce soir, qui sont en vacances avec leurs enfants, mais prenons tous les uns et les autres conscience comment ces enfants ont morflé d'être derrière des écrans. Et on sait pas, nous. Non, on sait pas ça. Et donc, voilà, je sais pas. C'était la réflexion que m'amenait votre dracha, Mariacha.
Eh ben oui, en effet.
Ah ouais.
Prenons les vacances, prenons le temps de créer ce fort attachement et ce sentiment que l'on donne à l'autre qu'il existe, qu'il est important pour nous, quelles que soient ses réalisations, quelles que soient ses productions, en tant que telles, de façon inconditionnelle.
Allez, on va essayer d'y penser. Déjà, si on y pense tous ce soir, Shabbat, ça sera déjà merveilleux. Mariacha, merci à vous. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Bernard, à bientôt.
Shalom Leiboy Naboy, Hashem Lo Yishmarie, Shalom Shokat Shalom.